Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, on est très heureux de vous retrouver, on est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Mathieu et Patrick, salut à tous les trois.
Bonsoir ma bête.
Tout va mieux Patrick ?
Très bien, je suis vraiment content d'être venu.
Nous aussi on est content de vous retrouver en forme, Pierre nous rejoindra juste après 20h. Mohamed, votre story ce soir ?
C'est l'anniversaire de mon idole, c'est l'anniversaire d'une légende, du plus grand sportif de tous les temps, du plus grand sportif français, oui, devant Michel Platini, devant Raymond Coppa. C'est l'anniversaire de Zinedine Zidane avec cette formidable une de l'équipe. On revient sur ses 50 ans et surtout sur cette très belle victoire qu'on a connue en 98 grâce à lui, la Coupe du Monde.
Et lui qu'on dit mutique, pas bavard, taiseux, 18 pages d'interview. Voilà. Donc finalement, il avait des tas de choses à dire. On y revient avec vous dans la story. Patrick, votre édito ce soir.
Pour sortir de l'impasse politique, Emmanuel Macron appelle ses opposants au compromis. Mais vous savez que la classe politique fonctionne depuis des décennies selon un principe simple. Le compromis, voilà l'ennemi.
Et on fera réagir à ce proverbe. Notre invité ce soir, Aurélien Pradié, député du Lot et secrétaire général des Républicains. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir.
Merci à vous pour l'invitation.
Mathieu, dans le 5 sur 5.
Babette, si je vous dis tsunami, vous pensez Asie du Sud-Est, vous pensez éventuellement au Japon. Et si je vous dis que dans les 30 ans, on est sûr de connaître un tsunami dans la Méditerranée, que la Côte d'Azur pourrait même connaître un raz-de-marée, c'est l'UNESCO qui le dit, on va détailler cette info. Ils ont étendu en fait leur système d'alerte à toutes les zones du monde.
Voilà pour des nouvelles plutôt inquiétantes.
On peut se préparer en fait.
Il faut s'y préparer. Nos invités ce soir du dîner, trois vieilles canailles, Pierre Richard, Eddie Mitchell, Bernard Lecoq, héros de l'adaptation au cinéma, des vieux fourneaux avec Alice Paul qui sera là bien sûr, et puis Alpha Blondie sera sur la scène de C'est à vous pour un live qui sent bon l'été. Ça, je vous le promets, il y aura du ouh-ouh Fanta Diallo. Je ne chante pas parce que j'ai pitié de tout le monde. Rebecca Beaufour est notre chef ce soir, la propriétaire du restaurant Dante, c'est rue de Paradis à Paris. Bonsoir, chère Rebecca.
Bonsoir, Babette.
Alors, pour nos vieilles canailles, des gnocchis. Ouais.
Des gnocchis maison, au beurre de sauge, que je vais vous servir avec des petites asperges sauvages, parce qu'on touche à la fin de la saison des asperges. Je me suis dit que ce serait plutôt chouette d'en avoir encore aujourd'hui.
Merci beaucoup Rebecca, à tout à l'heure. Il est de retour, il fait son grand comeback ce soir. C'est Patrick Cohen et son édito. Huit minutes, montre en main. Emmanuel Macron a fait court hier pour s'adresser aux Français pour la première fois depuis les résultats des législatives dimanche. Un président qui dispose, on le sait, d'une majorité relative et qui en a appelé au compromis.
Pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect.
Un appel au compromis, mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout dans la culture politique française.
Ah non, pas du tout. Ça fait 60 ans que ça dure depuis les débuts de la 5e. 60 ans d'un système majoritaire qui met les décisions à l'Élysée plutôt qu'à l'Assemblée, qui fait passer des lois sans concertation avec l'opposition et parfois même sans discussion. Donc quand subitement un président promet à ses adversaires de faire le contraire de ce qui s'est toujours fait par lui ou par ses prédécesseurs, qui leur dit « venez, on va discuter, on va essayer de s'entendre », bah logiquement, personne n'entend.
D'autant que les adversaires du chef de l'État met en cause sa légitimité.
Ah oui, alors ça, c'est autre chose. C'est vrai que depuis lundi, on entend des choses bizarres sur le plan démocratique ou institutionnel. Quelques exemples.
Il a été élu par le peuple français. Mais son programme, lui, a été battu dans les urnes dimanche dernier.
S'il reste sur son projet, il n'a pas de majorité absolue. N'a pas de majorité absolue et c'est lui qui est coincé. Et c'est lui qui va bloquer la France. Ce n'est pas nous.
Et donc cette mise au pied du mur des groupes politiques n'a pas de sens. Le blocage, c'est Emmanuel Macron, pas le Parlement.
Vous avez dit bizarre.
Ben oui, c'est pas moi, c'est lui. C'est toujours la faute de l'autre. Bon, ben, ça, c'est le confort d'une opposition ou des oppositions qui ne se sentent responsables de rien. Premier principe, aucune remise en cause jamais tu ne feras. Là, je vous ai fait des phrases en forme de Maître Yoda. Et membre de l'opposition, en tout point, tu t'opposeras.
Il y a un deuxième principe, Maître
oui,
Yoda.
Oui, dénoncer toute volonté de compromis comme une compromission. À peine Jean-François Copé, ça c'est pour vous, avait-il proposé dimanche soir un pacte de gouvernement que les chefs des jeunes LR, le président des jeunes LR, Guilhem Carayon, demandait au maire de Meaux de prendre la porte d'un parti sans doute encore trop peuplé à ses yeux. De ton camp, les traîtres, tu excluras. Enfin, troisièmement, faire comme si vous aviez gagné l'élection et réclamer l'application de votre programme ou des discussions sur la base de votre programme. En vainqueur toujours, tu te comporteras. C'est le curieux syllogisme qui court depuis lundi dans toutes les oppositions. Puisqu'Emmanuel Macron a perdu la majorité, c'est à la minorité de faire la loi. Ce n'est pas le programme présidentiel qui devrait s'appliquer, mais celui de ses opposants.
Qui ont pourtant obtenu moins de voix.
Oui, mais ça compte pas pareil. Il suffit d'expliquer que les électeurs de Macron n'ont pas voté pour son programme, mais pour faire barrage. Et d'ailleurs que le président a été mis en minorité aux législatives. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois ce matin dans les matinales. Très importante, cette expression « mise en minorité » qui lui retire le label majoritaire et laisse entendre qu'il n'est pas légitime à gouverner.
Et en réalité
bah, il est le moins légitime... à l'exception de tous les autres. Voilà, c'est comme pour la démocratie. À l'issue d'un scrutin législatif où tout le monde a fait barrage à tout le monde, où le second tour, le vote anti, au second tour, le vote anti-Le Pen a été contrebalancé soit par le vote anti-Macron, soit par le vote anti-Mélenchon, avec des reports de voix surprenants et inédits, y compris de la gauche ou de chez Macron vers l'extrême droite, qui ont abouti à cette assemblée jamais vue.
Mais est-ce qu'un pays peut être gouverné sans majorité absolue ?
Eh bien, c'est le cas de 19 pays d'Europe sur 27, dirigés par des alliances entre partis, des coalitions tantôt majoritaires, tantôt minoritaires. Emmanuel Macron, hier soir, a cité l'Allemagne et l'Italie. Mais même en Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez ne dispose que d'une majorité relative et assez mince au Parlement espagnol.
Est-ce que ça peut marcher en France ?
Oui, je crois. Il faudra compter avec les attentes des citoyens, pas seulement sur le contenu des mesures et des réformes, mais sur le climat politique. Est-ce que les Français sont en quête de radicalité ou de compromis ? Est-ce qu'ils ont envie d'un Parlement qui avance ou qui s'investive et qui se bloque ? Les députés savent qu'ils pourraient rendre des comptes à leurs électeurs dans les prochains mois. Si le président, qui lui n'a plus rien à perdre puisqu'il sera plus là dans 5 ans, décide de dissoudre, les empêcheurs ou les bloqueurs ne sont pas forcément les plus populaires. Ça peut marcher, mais seulement pour les décisions agréables, si je puis dire. Ouais. C'est-à-dire les hausses de pensions, les baisses de taxes, les aides, les chèques, etc. Pour les réformes dites difficiles, là, vous oubliez, le président hier soir, d'ailleurs, n'a pas prononcé le mot retraite. Ce n'est pas l'âge légal qu'il a reporté, c'est la réforme.
Donc on a tort de confondre compromis et compromission.
Il y a 4 lettres d'écart entre les deux mots, mais ça dit tout le contraire. En politique, la compromission, c'est la lâcheté, le compromis, c'est le courage.
Aurélien Pradi, est-ce que vous mettez en doute la légitimité du président ?
Non, le président de la République est élu président de la République. Mais de là à considérer que cette situation n'est que la faute des oppositions, enfin pardon, mais vous oubliez un personnage dans l'histoire. C'est le président de la République.
Non, mais j'ai pas dit que c'était pas la faute des oppositions. J'ai critiqué les oppositions qui ont dit que c'est la faute de Macron.
Vous avez oublié accessoirement de faire la critique du président de la République. Oui, moi, je considère que si nous en sommes, et je vais le faire pour vous compléter, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est pour 2 raisons profondes qui doivent nous interroger. La première, c'est le dépassement des clivages politiques. Emmanuel Macron l'a rappelé hier. Il a dit « mon chemin, c'est le dépassement des clivages politiques ». Je considère que c'est une faute. Je considère qu'en démocratie, cette idée selon laquelle il n'y ait plus qu'un bloc central fait que demain, nous le voyons désormais, il n'y a que les extrêmes pour incarner des convictions. Et donc j'ai un désaccord stratégique fondamental à la vision que Emmanuel Macron a de la démocratie. Je considère qu'en démocratie, il vaut mieux des clivages, c'est sain d'avoir des convictions différentes, nous ne partageons pas tous les mêmes convictions, plutôt que
de créer... Il y en aura des convictions différentes à l'Assemblée nationale.
Plutôt que de créer le chaos. Et je pense que c'est cette situation que nous devons analyser aussi. Quand Emmanuel Macron, hier, dit « je veux aller plus loin sur le dépassement », il ne comprend pas ce qui s'est passé dans le pays. Il ne comprend pas, comme Chirac l'avait compris d'ailleurs lorsqu'il a été élu président de la République face à Marine Le Pen, qu'il avait refusé un gouvernement d'union nationale parce qu'il savait, je termine sur cela, il savait que si on effaçait les clivages, on laissait la place aux plus radicaux que vous évoquiez. Et donc Emmanuel Macron doit aussi tirer les conclusions, les leçons de tout cela, cesser avec le débauchage permanent que nous avons connue depuis 5 ans. Vous savez, cette pratique que vous avez commentée, que nous avons tous...
Que Nicolas Sarkozy a été le premier à pratiquer.
Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit qu'il fallait tourner la page
du sarkozysme.
C'est pas
bien ce qu'a fait Nicolas Sarkozy.
Non, je l'ai dit très clairement, pas de langue de bois. Je pense que tout ça contribue à dégrader notre vision de la démocratie. Et nous en sommes là.
Les gens sont venus...
Mais vous savez, pour quand un traître est en puissance, un traître, il n'y a pas besoin de le forcer.
C'est le mot que utilisait. Oui, c'est de la trahison.
Et je veux le prononcer. Oui, lorsque Emmanuel Macron...
Finirait dans une cabine téléphonique.
Non, pas dans une cabine téléphonique.
Bah, si.
On finira peut-être à redresser la démocratie. À redresser la démocratie. Et je le dis très sereinement, mais lorsqu'Emmanuel Macron est allé à la chasse aux prises de guerre, vous avez vous-même, les observateurs, prononcé ces phrases de prises de guerre. Eh bien, je pense que ces prises de guerre, elles ont abîmé l'idée qu'on se fait de la politique et de la démocratie. Voilà, je tire cette leçon-là. Okay. Globale, il n'est pas le seul responsable, nous aussi, mais il faut en tirer les conclusions.
Et que vous demandent vos électeurs, ceux qui vous ont porté en tête et élus dans votre circonscription? Ils vous demandent de bloquer l'Assemblée nationale, ou ils vous demandent de vous invectiver, ou ils vous demandent de faire avancer le pays et de faire avancer des réformes?
Non, moi, les électeurs du Lot, qui sont des électeurs de gauche, un député de droite élu et réélu dans une terre de gauche, ils me demandent d'être fidèle à mes convictions. Ils me demandent de ne pas céder à une injonction absolument folle qui consisterait à n'avoir le choix qu'entre Emmanuel Macron et les extrêmes. Vous vous rendez compte, y compris la question que vous me posez, c'est insupportable en démocratie. Désormais, je n'aurai que deux options. Ou vous rejoignez la Macronie, circulez, il n'y a rien à voir, c'est le cimetière des convictions, ou vous devenez un extrémiste. Mais vous me dites, ou bien c'est le...
J'ai juste de gouverner le pays, de voter des lois et des mesures.
Je vais vous faire des propositions, mais je souhaite qu'avant cela, nous sortions de cette injonction insupportable qui consiste à dire, c'est le blocage ou la compromission. Non, il y a un autre chemin. Ce chemin.
Ou le compromis? Pourquoi est-ce que vous refusez de parler plus de compromis que de compromission?
Je ne le refuse pas, mais sauf que ce sont des mots. Derrière l'Union nationale, derrière la coalition, derrière le compromis, on met quoi? Monsieur le Président de la République, êtes-vous prêt à déconjugaliser l'allocation adulte handicapé? Comme nous l'avons réclamé depuis 5 ans. Comme il l'a refusé avec son gouvernement depuis 5 ans. Êtes-vous prêt à détaxer massivement les carburants pour arriver à 1,50 € comme nous l'avons proposé et comme il l'a refusé? Êtes-vous prêt à créer une juridiction spécialisée? Êtes-vous prêt, Patrick Cohen, monsieur le Président de la République, à créer une juridiction spécialisée pour mieux protéger les femmes et les enfants victimes de violences? Toutes ces propositions, nous les avons faites depuis 5 ans. Elles ont été refusées. Et je vous dis que dès la semaine prochaine, les députés Les Républicains mettront sur la table une série de propositions. Si le Président de la République veut faire son mea culpa et avancer sur ces sujets, nous avancerons avec lui.
C'est exactement ce que je disais dans l'édito. C'est sur la base de votre programme, comme si vous aviez gagné, qu'on doit négocier, et non pas sur la base du programme qui a obtenu le plus de voix aux quatre tours de scrutin qui se sont déroulés depuis 2 mois et demi.
Vous avez le droit de prendre la défense du Président de la République.
Mais je ne défends pas
la défense. La défense, ce sont des faits.
Oui, sauf que personne n'est en position de force. Dans notre démocratie, le Président de la République doit avoir une majorité. Mais elle n'est pas absolue, cette majorité. Et vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs.
Comme dans 19 pays d'Europe.
Vous l'avez dit vous-même, s'il veut avancer, il faudra qu'il discute avec nous. Et la méthode, ce n'est pas à nous seulement de la changer. Je dis bien seulement. C'est aussi au Président de la République. Mais quant aux comparaisons, pardonnez-moi, européennes que vous faites, elles sont erronées. Pardon de vous le dire, mais le fonctionnement parlementaire de l'Allemagne n'est pas le nôtre.
Les Länder
ont une force considérable en matière législative, et la démocratie, nos institutions ne sont pas organisées de la même manière.
Absolument.
Je veux juste que, et je pense que vous l'avez à l'esprit, que vous puissiez...
Mais en Espagne ou en Italie, par exemple, il n'y a pas eu trois mois de discussion pour faire un pacte gouvernemental.
Ce ne sont pas les mêmes institutions. Ce n'est pas un quinquennat comme nous le connaissons. Je veux simplement vous dire que c'est sain dans une démocratie que vous puissiez respecter que des femmes et des hommes politique n'est pas exactement ni les convictions d'Emmanuel Macron, ni celles de Jean-Luc Mélenchon, ni celles de Marine Le Pen. J'ai les convictions de la famille gaulliste, de la droite républicaine.
Donc l'intérêt du parti avant l'intérêt du pays.
L'intérêt de mes convictions, de mes valeurs. Ce n'est pas la famille politique.
Le pays.
Mais le pays, je considère qu'il n'est pas gouverné de la même manière selon vos convictions politiques.
Mais là, il ne peut pas être gouverné. C'est comment on fait pour le gouverner.
Je vous l'ai dit. Nous allons poser la semaine prochaine une série de propositions. Ouais. Nous verrons ce que le Président de la République souhaite faire ou pas. Et nous verrons ensuite comment nous avançons. Il n'y aura pas de blocage institutionnel venant de nous. Jamais nous ne bloquerons le pays. Mais jamais nous ne céderons à l'injonction qui consiste à abandonner nos convictions. c'est pas si compliqué que ça à comprendre.
Donc ça veut dire qu'on s'achemine par une négociation au cas par cas, texte par texte?
Oui, ce qui est l'objectif d'une démocratie d'ailleurs. Mm-hmm. Et depuis 5 ans, qu'avons-nous fait? J'ai été député pendant 5 ans. Les propositions que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment sur la lutte contre les violences conjugales, qui a été un de mes combats, je les ai faites à l'Assemblée nationale. Figurez-vous que j'ai même fait voter moi-même la loi sur la généralisation du bracelet anti-rapprochement à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Ça veut bien dire que les oppositions ne sont pas bêtes et méchantes, à l'exclusion peut-être du Rassemblement national et de la France insoumise, mais je ne ressemble ni à l'un ni à l'autre.
Ils sont bêtes et méchants.
En tous les cas, brutaux dans leur méthode et sûrement contestables dans la déstabilisation des institutions qu'ils souhaitent mettre en place. Oui, je le pense.
Marine Le Pen, qui a été élue aujourd'hui présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, hier, en arrivant avec ses députés, elle n'excluait pas de voter certains textes.
Nous défendons l'intérêt de la France et des Français. Tout ce qui va dans le sens de l'intérêt de la France et des Français, nous le voterons. Tout ce qui nous apparaît perfectible, nous l'amenderons. Et tout ce qui nous apparaît toxique ou néfaste, eh bien, nous nous y opposerons.
Il ne faut pas accepter les votes du Rassemblement national ?
Lorsque les députés votent à l'Assemblée nationale, ils votent librement. Et si sur certains textes, avec eux comme avec d'autres, nous avons des votes qui se rejoignent, il n'y a pas de difficulté. Je citais tout à l'heure la loi de lutte contre les violences conjugales que j'ai portée, elle a été adoptée à l'unanimité. Autant vous dire qu'il y avait des femmes et des hommes.
Il y avait des voix du Rassemblement national.
Bien sûr, mais ce n'est pas le problème. Je dis simplement qu'il y a une différence entre, sur un sujet qui concerne notre pays, de mêler nos voix pour faire avancer les choses et d'effacer les clivages politiques. Effacer les clivages politiques, se compromettre politiquement, je ne le veux pas. Pas seulement pour moi, mais je ne le veux pas pour mon pays et la démocratie.
Mais il y a des clivages fondamentaux, et puis il y a des moyens d'agir, des façons de voir différentes qui peuvent éventuellement se discuter, se négocier, etc. Des choses qui sont forcément moins importantes, moins sensibles. Si chacun, dans l'hémicycle, vient avec votre état d'esprit, c'est-à-dire, et dit, voilà, ça, c'est mes propositions, c'est à partir de mes propositions qu'on discute, et pas à partir de celles du gouvernement, on n'y arrivera pas. Personne n'arrivera à discuter.
Vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit.
On arrivera avec nos propositions, c'est là-dessus qu'on va discuter.
Je n'ai pas eu du tout cette attitude de dire, c'est ça ou rien. Je vous ai dit que mon rôle de député, le rôle du groupe Les Républicains, c'était de poser des propositions sur la table. C'est quand même la moindre des choses. C'est d'ailleurs même ce que le président de la République a demandé. Et ce que je vous dis par ailleurs, c'est que nous ne serons pas dans le blocage, nous ne serons pas non plus dans la bordélisation de l'Assemblée nationale comme certains souhaitent le faire, parce que c'est la déstabilisation assurée de notre pays. Nous ne souhaitons pas cela. Et la différence sûrement avec les deux partis extrémistes, c'est que nous voulons concrètement changer la vie de nos concitoyens. Nous ne sommes pas là pour nous nourrir simplement des colères des uns et des autres. Mais dans tout ce spectacle-là...
Bon, bah alors donc vous êtes d'accord avec la méthode proposée par le président de la République ?
Mais la méthode, peut-être. Mais concrètement, j'ai posé trois propositions.
C'est une méthode qu'il a proposée hier.
Il n'a pas proposé grand-chose, franchement. Hier, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. J'ai des différences fondamentales avec Emmanuel Macron. Sur sa vision de la société, sur le rapport méprisant qu'il a aux uns et aux autres, sur, pour moi, la vision injuste qu'il a de la société, sur cette idée que les plus forts gagnent et que les plus modestes perdent, ce n'est pas ma vision de la société. C'est un débat légitime qu'on peut avoir politiquement. On n'est pas obligé d'être béat devant le président de la République. Ça, ce sont des fondamentaux que je ne transigerai jamais. Si nous posons des propositions sur la table, ce sera sans contrepartie. Il n'y aura pas « je te passe le sel, je vous propose les propositions et en contrepartie, je rentre au gouvernement ». Jamais. C'est ça la limite et la différence entre le compromis et la compromission.
C'est un exemple des lois que Emmanuel Macron a fait passer qui montrent la victoire des forts et l'enfoncement des faibles.
Sur sa vision de la société, oui.
Non, mais concrètement...
Mais on peut débattre de cela. Attendez, je vous dis que j'ai des différences fondamentales avec Emmanuel Macron. Vous conviendrez quand même qu'on n'est pas tous...
Qui se sont traduites dans des textes,
dans des mesures économiques, qui se sont traduites dans des non-actions.
Quelle mesure économique?
La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Ce n'est pas un détail. Lorsque nous sommes battus à l'Assemblée nationale pour que des millions de femmes et d'hommes qui aujourd'hui vivent le handicap et connaissent cette injustice de la conjugalisation...
Non-mesure, parce que c'est la situation fiscale depuis des années. Elle est comme ça depuis des années.
Pardonnez-moi, lorsque...
Ce n'est pas une initiative d'Emmanuel Macron.
Non, mais attendez. Lorsque j'ai porté la loi, le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est positionné. Il s'y est opposé. Eh bien là, nous avons une différence. Oui. Non, ce n'est pas négligeable. Il n'y a pas le revers de la main. C'est un sujet qui dit une vision de la société.
Mohamed.
Aurélien Pradier, à la rentrée, Christian Jacob, le patron des Républicains, va passer la main. Il l'a confirmé sur l'antenne de France Inter, c'était ce mardi.
toujours considéré que le, Laurent Wauquiez avait toutes les qualités pour reprendre la présidence du parti. Maintenant, c'est un choix personnel pour lui.
Il hésite, apparemment.
Est-ce qu'il est candidat ou pas ? Ensuite, ce sera le choix de nos militants.
Pour certains, Laurent Wauquiez est le candidat naturel, le candidat idéal pour succéder à Christian Jacob. D'autres personnes, d'autres élus des Républicains citent votre nom. Ça vous tente, la présidence du parti ?
D'abord, je veux dire à Christian Jacob que c'est un grand bonhomme. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, c'est le premier qui m'a fait confiance. J'avais une trentaine d'années, il n'y avait aucune raison de me faire confiance. Il a toujours eu ce goût de la transmission et au moment où il s'en va, avec beaucoup d'élégance, je trouve, sans rien demander, c'est à saluer parce que c'est rare dans la vie politique. Pour le reste, je pense que la droite républicaine, elle n'existera que si elle revient sur les blessures du quotidien. Moi, j'ai souffert d'une droite républicaine qui ne se concentrait que sur les questions identitaires. Ce ne sont pas des sujets négligeables, ce sont des sujets importants. Mais que disons-nous sur l'écologie ? Que disons-nous sur la réussite des jeunes ? Que disons-nous sur la protection de l'enfance ?
Quand vous parlez de questions identitaires, vous évoquez Laurent Wauquiez.
J'évoque une stratégie commune depuis des années. Et ce que je veux porter dans ma famille politique, c'est la refondation d'un mouvement populaire. Est-ce que ma génération doit y prendre part ? Oui. Est-ce que j'y prendrai part ? Je suis très honnête en vous disant que j'en sais rien.
Mais j'ai dit, vous avez envie ?
Oui, parce que j'ai envie de reconstruire cette famille politique et je n'ai pas envie d'avoir à continuellement choisir entre Emmanuel Macron et les extrêmes. Et donc, c'est une aventure merveilleuse pour ma génération d'avoir tout à rebâtir. Ce que je sais juste, c'est que ce n'est pas une aventure individuelle, que c'est une aventure collective. Et il me faut donc convaincre mes aînés que les jeunes turbulents...
Vous l'avez rencontré, Laurent Wauquiez ?
Oui, et d'autres aussi. Mais je dois convaincre mes aînés que les jeunes turbulents... qui ne tiennent pas en place, ce n'est pas qu'un problème pour une famille politique, ça peut aussi être une chance.
Bon, restez encore un peu en place, on va commenter avec vous le reste de l'actualité Aurélien Pradier, notamment cette date qui va rester dans l'histoire. Demain, ça fera exactement 4 mois, depuis le 24 février 2022, le jour où la Russie a envahi l'Ukraine, le début d'une guerre totale, la plus grave crise en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce soir-là, ce 24 février 2022, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Volodymyr Zelensky, un président d'un pays sous les bombes.
And now they're in Kiev. We are fighting in Kiev. A minute.
They are with special forces and helicopters or?
Yes, airplanes and helicopters, everything. We see it in video. We see it everything. A lot of.
Do you have an idea on how many civilians were killed already?
No, thousands.
And what about you? Are you in security yourself?
I think so.
Bonsoir Guy Lagache.
Bonsoir Anne Elisabeth.
Journaliste, réalisateur, pendant 6 mois, vous avez littéralement mis vos pas dans ceux du chef de l'État, devenu chef de guerre le 24 février dernier, en immersion dans la cellule diplomatique de l'Élysée, 7 jours sur 7. Résultat, ça donne un film saisissant. Un président, l'Europe et la guerre, qui sera diffusé jeudi prochain sur France 2 et qui capte littéralement l'histoire en marche, une histoire dramatique au plus près des décisions. On vient de voir les discussions entre chefs d'État, il y en a d'autres, on y reviendra. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que la crise a rattrapé votre film comme elle a rattrapé l'Europe et le monde. Votre objectif au départ, c'était de raconter avec pédagogie le rôle de la France à la présidence de l'Union européenne.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis allé voir l'Élysée... que je ne connaissais pas, je ne connaissais personne à l'Élysée, et j'avais une idée au mois de novembre. Je savais évidemment que la France allait prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Vous savez, c'est une présidence tournante. Chaque pays des 27 membres de l'Union européenne, tous les 6 mois, donc préside le Conseil de l'Union européenne. Et je me suis dit, j'aimerais faire ce que j'avais réussi à faire
à Capital
avec l'économie. J'aimerais rendre l'Europe... à la fois pédagogique et haletante, avec un grand récit documentaire à la télévision. Pourquoi ? Parce que l'Europe me semblait, comme pour beaucoup de Français d'ailleurs, compliquée, éloignée de moi, technique, complexe, bref, une espèce de, entre guillemets, de machin qu'on a du mal à comprendre de l'intérieur. Et je me suis dit, le meilleur moyen de le faire... c'est de raconter les choses à hauteur d'homme et de raconter de l'intérieur comment se fabrique l'Europe et de ce fait, comment elle a un impact sur notre vie en tant que citoyen. Donc je suis parti de là, j'ai fait cette proposition aux gens de l'Élysée, aux conseillers et conseillère du président de la République. Et ils ont trouvé l'idée intéressante. Et c'est comme ça que tout a commencé.
Le film commence dans l'avion qui emmène le président et sa délégation à Bruxelles le 19 janvier dernier. À bord, on parle de tout sauf du conflit qui couve. C'est 15 jours plus tard que le ton change. Poutine se fait menaçant, manœuvre à la frontière. Biden multiplie les avertissements. Et c'est le moment où vous vous engouffrez dans la voiture d'Emmanuel Macron qui a du mal à cacher son inquiétude.
Bon, okay. Tiens-moi au jus par télégramme et là je rentre. Ouais, merci. Ciao, ciao. Salut.
Qu'est-ce qui se passe ?
Non, on essaie de coordonner les choses sur la Russie, là. Essayer de faire désescalader tout ça.
Et on y arrive ou pas ?
C'est trop tôt pour le dire encore.
C'est là.
C'est trop tôt.
Pour l'instant, ça monte un peu, non ?
Il y a beaucoup de monde à la frontière, il y a beaucoup de soldats russes qui sont à la frontière et des exercices militaires qui sont là pour montrer. Il y a eu des alertes verbales côté britannique et américain. Après, il y a un débat qu'on a engagé. Je l'ai eu plusieurs fois, on a des discussions.
Poutine ?
Oui.
Vous lui demandez alors, Poutine est-il dangereux ? Le président vous répond, je vous dirai jamais ce que je pense. On comprend que la réponse est oui, mais il est persuadé de pouvoir encore agir.
Et ça va être évidemment la première étape, parce que c'est un film qui suit les différentes étapes de cette crise qui deviendra donc une guerre, la guerre, l'événement le plus dramatique sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une première phase, effectivement, où le président va tout faire pour tirer un fil diplomatique, pour essayer de convaincre Poutine de ne pas y aller. Et donc, à ce moment-là, moi, je précise que je filme avec un iPhone, parfois, ou un caméscope, hein, les gens avec qui je bosse chez Elephant ont intitulé mon film « Filmer avec les pieds », mais ça donnait un caractère authentique et c'était surtout le seul moyen de pouvoir être réellement une sorte de insider à l'intérieur parce que plus vous êtes en petit nombre, bah, plus vous pouvez vous faire petit. Et donc, je vais assister à des réunions avec les conseillers, je vais assister au débriefing entre le président et ses conseillers, on vient de voir quelques images après cette séquence absolument hallucinante, d'abord au Kremlin, qui va durer 6 heures et à 1h du matin.
La fameuse table incroyable.
Absolument. Et donc là, dans cette séquence, le président prend la mesure de la situation, je cite, incandescente dans laquelle le monde se trouve.
C'est le mot qu'il utilise.
C'est le mot qu'il utilise. Et donc, à partir de ce moment-là, il va tout faire pour essayer de tirer la chose jusqu'à cette fameuse conversation. Que je qualifierais de la dernière chance. Le 20 février, on est à 4 jours, comment dirais-je, du début de la guerre. Et là, il y a cette conversation entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron que je vais suivre de bout en bout pendant 1h45.
On en voit un extrait.
Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et c'est pas par ça. Les autorités démocratiquement élues.
Они демократически выбранные правительства. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами и поджогами, и с сжиганием людей живьем. Вот. И Зеленский у вас из этой команды.
Pendant la conversation, il l'avouera à l'issue de cette conversation, au moment de raccrocher, il explique tranquillement qu'il se trouvait à la salle de sport pendant tout l'échange avec le président Macron. C'est dire le cynisme de cet homme qui savait parfaitement qu'il allait 4 jours plus tard envahir l'Ukraine et qui ment effrontément.
Alors, le mensonge, d'ailleurs, c'est ce que dit Emmanuel Beaune, le patron de la cellule diplomatique, qui est un homme clé, en fait, à l'Élysée, puisqu'il dirige la diplomatie auprès du président, évidemment, avec le ministre des Affaires étrangères, c'est que le mensonge fait partie, comment dirais-je, de la stratégie de Poutine. Et on voit bien que, et d'ailleurs, ça va faire partie des interrogations que je vais poser au président.
À quoi bon parler à Poutine ?
6 mois plus tard, c'est-à-dire il y a quelques jours, on était, Mohamed et moi, à Kiev, et ça fait partie des questions que je vais poser, c'est pourquoi continuer à parler avec Vladimir Poutine quand on sait pertinemment qu'il vous ment ? Mais enfin, c'est ce que raconte le film, et vous verrez, il y a des réponses assez intéressantes, mais notamment ce qu'il dit, parce que certes, il est dans sa logique propre, mais si on peut faire bouger un peu la conscience, ça peut avoir un effet.
Le fait qu'il dialogue avec, avec Poutine, ça lui est reproché. On assiste notamment à un échange entre Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron. On est, je crois, à 2 jours avant le déclenchement du conflit. Et Johnson lui dit, mais à chaque fois qu'on discute avec Poutine, il devient plus agressif. Je trouve qu'on a l'air un peu faible. Il va obtenir ce qu'il veut, il ne va pas s'arrêter là.
Ben, en fait,
ça dit bien la différence entre la position française et la position anglo-saxonne.
Oui. Absolument. La position française, et on le comprend, on comprend évidemment pourquoi d'abord le président continue à discuter avec Poutine. On le voit dans cette conversation. La conversation est robuste. Je veux dire, c'est certes sur un ton cordial, mais c'est extrêmement fort, extrêmement robuste. La deuxième chose, c'est qu'on voit aussi la doctrine française qui percute celle de anglo-saxonne. Encore une fois, la doctrine anglo-saxonne est beaucoup plus va-t-en-guerre, surtout incarnée par Boris Johnson. Le président Macron, lui, veut, et d'ailleurs il l'a répété à plusieurs reprises, il veut préserver autant que possible la paix, ensuite aider les Ukrainiens, ensuite sanctionner, mais le combat n'est pas contre la Russie. Ce qui est une nuance très importante et ça explique ce que vous venez de citer.
L'invasion russe démarre le 24 février en pleine nuit. Dès 8h le matin, vous êtes à l'Élysée avec le chef du pôle diplomatique, Emmanuel Beaune, qui vous dit être très amer. On n'est pas dans un jeu de rôle. La réalité, là, on sent bien, pèse lourd sur les épaules, tire les traits du visage. Et lorsque le président descend au PC Jupiter, le bunker de l'Élysée, pour y tenir un conseil de défense, vous le suivez avec votre caméra. L'extrait que vous nous avez confié s'arrête là. Mais votre caméra va suivre le président jusqu'à ce lieu tenu secret. On passe une, deux portes blindées. On se dit non, à ce moment-là, ils vont arrêter Guy Lagache et son téléphone portable qui filme avec les pieds. Non. Vous entrez dans le bunker. On y voit Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean Castex, évidemment, l'état-major.
L'état-major militaire, oui.
Et on entend même les premiers mots du président. C'est la première fois que les images de ce PC judiciaire existent, ont été tournées. Comment vous avez fait pour faire sauter les verrous? On sait que l'Élysée verrouille.
Alors, j'ai déjà vu des images, mais pas avec le président dedans. Hein. Ouais. C'est,
voilà,
ça, hein.
C'est ça.
Ouais.
Là, c'est une vraie réunion.
Oui, là, on le voit.
Oui, oui. En fait, ça, c'est au départ, pour revenir sur ce que je disais, on vous donne un accès. Mais ensuite, cet accès doit être gagné jour après jour. Donc, il y a une première phase, c'est l'immersion. Un travail journalistique, de compréhension. Vous faites votre boulot comme si vous êtes en enquête. Et puis, à travers cela, il y a une confiance qui doit commencer à se former. Elle a pris du temps, cette confiance, d'autant plus difficile que vous êtes dans un moment de crise aiguë. Il y a une fatigue, une lassitude des conseillers. Enfin, ils travaillent 20 à 22 heures sur 24 dans cette période-là. Et à force de faire preuve de pédagogie, de leur faire comprendre aussi que les Français s'interrogent. Vous le disiez tout à l'heure, on se demande pourquoi ils continuent à vouloir discuter avec Poutine. Donc il y a des interrogations et je leur dis, au fil des semaines, il faut qu'on comprenne. On est dans un moment unique, historique. Racontons la chose et à partir de ce moment-là, cette confiance s'installe et vous vous trouvez là. Et à un moment donné, je passe et on me dit « Ok, il faut être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Et vous savez, dans ce genre de choses, vous passez énormément de temps à ne pas tourner, à être présent, à observer, à essayer de comprendre.
Avant de faire réagir Aurélien Pradier, pourquoi c'est important de montrer ces images?
Parce que je pense que d'abord, on a besoin, en ces temps où on explique souvent que la politique, elle est... Les discours sont assez incantatoires. Il suffit d'eux pour arriver à... Et je trouve que ce qui est intéressant, on peut ne pas être d'accord avec les choix qui sont opérés par le chef de l'État. Mais en revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est la complexité de l'exercice du pouvoir. On a vu beaucoup de documentaires sur l'accession au pouvoir. Je crois que c'est la première fois qu'on voit qu'on arrive à documenter l'exercice du pouvoir et sa complexité, sa très grande difficulté, encore plus dans un système avec 27 pays de l'Union européenne, avec des histoires différentes, des intérêts divergents. Et ce que je voulais, c'était de montrer, et je pense que le président et ses conseillers l'ont compris, l'intérêt, la portée historique que ce type de documentaire, que ce documentaire pouvait avoir.
Votre réaction, Aurélien Pradier.
D'abord, je veux saluer le travail journalistique, parce que ça permet aussi de montrer à quel point la politique est une affaire grave. Mmh. Et quand on touche à la guerre, on touche au plus grave, c'est-à-dire le maintien des villes, le maintien de situations diplomatiques, de frontières, etc. J'ai juste une limite à l'exercice. C'est que c'est la guerre. Il y a l'esthétique nécessaire, la passion que vous avez eue et que nous allons avoir à découvrir les mécanismes du pouvoir, des relations internationales. Mais au bout du bout, il y a la guerre. Et c'est là que c'est hyper important, pardon de le dire aussi simplement, que vous ayez cette discussion pour y compris expliquer à tous ceux qui vont voir ce documentaire passionnant, je suis très impatient de pouvoir le voir, que ce n'est pas un film, c'est la réalité. Et qu'au bout du bout, on a eu un échec qui est la guerre considérable avec les victimes civiles. Mais bravo pour ce travail exceptionnel, ça nous rappelle ce qu'est la lourdeur de la politique, oui, et toute sa gravité.
La complexité du job, la fragilité aussi, parce que ce ne sont jamais qu'un homme qui parle avec un autre homme.
Absolument.
Et quand vous dites qu'il ne faut pas croire qu'on est dans un film, à aucun moment on a le sentiment d'assister à un film
mis en scène.
Exactement, même si c'est extrêmement spectaculaire. Un président, l'Europe et la guerre, c'est jeudi prochain à 21h10 sur France 2. C'est signé Guy Lagache. Merci beaucoup, vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Il a presque le même âge que moi, Zinedine Zidane.
Oui, mais une Coupe du Monde en plus. Et un championnat d'Europe. En tout cas, il n'y a qu'un homme qui pouvait changer le nom d'un des plus grands quotidiens français ce matin. En kiosque, l'équipe du jour est devenue Zinedine. J'aurais pu le dire avec le ton de Pascal Obispo et monter dans les aigus, mais je le ferai pas. Un hommage pour le plus grand joueur du football français. Certains des plus anciens citeront peut-être Michel Platini. Zinedine Zidane fête aujourd'hui ses 50 ans. Un soir du 12 juillet.
J'ai joué Zidane, mais pas Platini, vous voyez. Donc, comme ça, je suis pas si ancien.
Ça va. Alors, un soir du 12 juillet 1998, il entrait dans la légende.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Oh, but ! But de Zinedine Zidane !
Djorkaeff, et but ! Zidane ! Et c'est le doublé de Zinedine Zidane ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Du jamais vu depuis bientôt un demi-siècle. Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs.
Zidane, il est du même patelin que nous. Il est de Béjaïa, Algérie. On est très content, on est venu ici en France pour supporter l'équipe de France et supporter Zidane.
Quelques mois après cette victoire en Coupe du Monde, Zinedine Zidane obtenait le Graal pour un joueur de football sous les yeux de ses proches.
Vous êtes un des plus grands ballons d'or de toute l'histoire de France Football. Un ballon d'or que j'ai l'honneur, mais vraiment l'honneur, Zinedine, de vous remettre ce soir. Vous l'avez mérité très très largement, bravo.
Si j'ai un petit bonjour à faire plus particulièrement parce qu'il y a mon pépé qui est là, mais ma mémé est restée à la maison et je l'embrasse bien fort et je crois qu'elle me regarde, donc je l'embrasse bien fort. Voilà,
tout était prédestiné pour cet enfant originaire de la cité de la Castellane à Marseille. À 12 ans, il joue au quartier avant de taper dans l'œil d'un recruteur de l'AS Cannes. Il quitte sa famille pour rejoindre la Côte d'Azur. Là-bas, un homme le prend sous son aile. Une légende des Bleus, lui aussi, Luis Fernandez.
On a eu un match là-haut, au quartier, avec des anciens. Puis je leur avais en arrivant, j'ai dit à mes amis, les manguettes, attention, parce que ce que vous allez voir, c'est peut-être... Un futur crack, je ne voulais pas employer crack, je voulais leur dire tout simplement, vous allez voir un garçon qui est doué, un garçon qui a des facilités, vous allez voir un garçon qui va vous faire plaisir, parce que c'est un garçon qui est venu, qui m'a accompagné, et je crois que les amis des manguettes me le rappellent. Ça m'a fait plaisir de pouvoir aussi le mettre là, dans ce milieu-là, et puis il a pris du plaisir, j'étais content aussi.
Yazid Zidane. Hakan devient Zinedine Zidane. Zizou, ça viendra plus tard à Bordeaux, après son premier entraînement. C'est Roland Courbis qui lui donnera ce surnom, comme il l'explique à Louis Amar.
Il y a eu, je crois, une première étape, c'était Zizouné, parce que je trouvais ça plus sympa que Zinedine ou que Yazid. Quand on l'appelait, j'avais même l'impression qu'on l'engueulait. Il y a des fois, j'ai dit, bon, allez, là, il est coincé, il ne pourra pas s'en sortir. Il y en a un qui était là devant, un derrière, un à côté. Il est cuit. Eh bien non, je lui pose cette question et je lui dis, mais quand tu es coincé comme ça, c'est quoi? C'est prévu? Tu as mis en place ta feinte? Tu as mis en place ta roulette du pied gauche d'abord et du pied droit, machin? Et il te répond, il te regarde, il dit, ben non, je sais pas, je ne fais pas exprès, ça me vient, la solution, elle me vient toute seule.
Et oui, parfois le talent, le don, c'est inné. Zinedine Zidane deviendra la plus grosse star du sport français. Un palmarès énorme, champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000 avec les Bleus, avant de faire pleurer des milliers d'amoureux du football. Un soir de finale en 2006, parmi eux, le regretté Thierry Gilardi.
Oh, Zinedine, pas ça,
pas du tout avec
pas ça, Zinedine, pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait!
J'ai longtemps pleuré, un 9 juillet 2006. Pas forcément de regrets ni de remords pour Zinedine Zidane qui déclare dans l'équipe aujourd'hui « Je ne suis pas fier, mais cela fait partie de mon parcours » avant d'ajouter que l'histoire d'amour n'est pas terminée. C'est pour ce coup de tête que je dis qu'avec les Bleus, ce n'est pas fini. Quelque part, je n'ai pas envie de finir comme ça, ce n'est pas terminé. Sélectionneur des Bleus, j'en ai envie. Et pourquoi pas, en 2022, après la Coupe du Monde au Qatar, en cas d'échec des Bleus, qu'on ne souhaite pas, bien évidemment.
Oui, bah oui.
Oui, parce que
bah nous, oui, on est torturés, voilà. Quoi. On veut Zidane, mais on aime bien Deschamps, et oui. Voilà. Donc si c'est pas 2022, ce sera après.
Ça sera 2024, pourquoi pas.
En cas d'échec, ça veut dire s'il gagne pas la Coupe du Monde.
Oui.
S'il gagne la Coupe du Monde, Deschamps restera forcément.
Ah, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a dit qu'il aimerait le garder s'il était champion du monde. Après, Didier Deschamps pourra faire un autre choix, on verra.
C'est compliqué encore que la succession des partis politiques.
Ah,
ouais,
c'est vrai.
Ah ouais.
Nicolas Sarkozy disait que les deux métiers les plus durs en France, en un, c'était sélectionneur des Bleus, et en deux, président de la République.
Mais il fera peut-être des compromis, Zinedine Zidane. Ouais.
Et pas de compromission.
Et pas de compromission. Merci beaucoup, Guy Lagache, d'avoir accepté notre invitation. Un président, l'Europe et la guerre, c'est à ne pas rater jeudi prochain sur France 2 à 21h10. Merci beaucoup.
Merci.
Tout de suite, Mathieu Béliard, son 5 sur 5. Normalement. Non, vous ne bougez pas. Merci d'être aussi conciliant. Mathieu, l'UNESCO alerte sur la menace de tsunami, y compris chez nous en France.
Oui, un tsunami, une vague géante va déferler sur les côtes de Méditerranée. On ne sait pas quand exactement, mais on sait que ça va arriver. L'UNESCO vient en fait d'annoncer l'extension de son programme Tsunami Ready, un programme de protection contre les raz-de-marée dans le monde entier. Initialement, l'organisme de l'ONU a surveillé le Pacifique, l'océan Indien et les Caraïbes uniquement. Désormais, la Méditerranée est dans leur radar. La probabilité d'une vague d'un mètre, donc catastrophique dans les 30 prochaines années, il est très élevé, dit l'UNESCO. Anaïs Recouli a rencontré un responsable de ce programme. Est-ce qu'on va avoir une vague géante sur la Côte d'Azur ?
Là, une publication assez récente nous dit que dans les 30 années à venir, il peut y avoir un tsunami de jusqu'à un mètre de hauteur dans la zone de la Méditerranée. Mettre un peu la dimension de qu'est-ce que ça fait un mètre. Et, si vous voyez 50 cm d'eau d'un tsunami, c'est pas une vague, c'est un mur d'eau qui est rempli de débris, des matériels qui peuvent vous tuer.
En réalité, le programme Tsunami Ready vise à préparer les populations côtières au risque à ce qu'on soit prêt à réagir en fait en cas de séisme ou d'éruption volcanique. L'idée, c'est aussi de mieux coordonner les systèmes d'alerte et de créer des liens entre la communauté scientifique d'une part et la protection civile. Ce que dit aussi notre expert, c'est que le principe général est que là où il y a eu un tsunami, il y aura un tsunami. Et il se trouve qu'il y a déjà eu un raz-de-marée du genre sur la Côte d'Azur suite à un glissement de terrain. Beaucoup l'ont oublié, c'était sur la côte niçoise le 16 octobre 1979.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. 14h20 sur la promenade des Anglais. Un phénomène stupéfiant pour les promeneurs. Sur cette côte sans marée, la mer se retire brusquement sur 300 mètres. Reflux brutal un quart d'heure plus tard. Un raz-de-marée emporte tout sur son passage, bateau, voiture et même passants.
Deux passantes auraient été emportées par la vague. Un corps a pour l'instant été retrouvé. Le préfet des Alpes-Maritimes est depuis cet après-midi sur les lieux. Il a d'ailleurs conseillé aux habitants de la région d'éviter les parages du bord de mer.
Par centaines, les embarcations de plaisance ancrées de Nice à Antibes ont été arrachées de leur mouillage et emportées ou projetées sur la route côtière.
Nous, on n'était pas nés.
1979, j'étais même pas au courant.
Et deux victimes, a priori.
Enfin, si vous vous posez la question du réchauffement climatique, ce dernier n'augmente pas du tout la probabilité de séisme ou d'éruption volcanique. Mais avec la montée du niveau de la mer, il se pourrait que la puissance des tsunamis soit à l'avenir décuplée.
Les médecins de Diego Maradona vont être jugés.
Oui, un neurochirurgien qui était le médecin de famille, entre autres, 8 professionnels de santé au total. C'est le juge de la ville de San Isidro, près de Buenos Aires, qui l'a annoncé. Et évidemment, ça fait la une en Argentine.
Elevaron a juicio la causa por la muerte de Maradona. ¿Qué me están diciendo?
Y se cerró la investigación, que encontraron a 8 sospechosos presuntos responsables.
¿8? La causante de la muerte podría haberse previsto, podría haberse evitado. A partir de ahí, una investigación, reitero, que involucró a 8 personas.
8 imputados. El médico Leopoldo Luque, la psiquiatra, 2 psicólogos, 2 enfermeros, el jefe de enfermeros y un médico.
Ces professionnels de santé seront jugés pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. On leur reproche des négligences tout en sachant qu'elles pouvaient entraîner la mort. On parle d'une série d'improvisations et d'une hospitalisation à domicile imprudente. L'idole, l'icône du football argentin, Diego Maradona, est mort le 25 novembre 2020, il y a un peu plus d'un an et demi, suscitant un émoi national, vous en souvenez. Et depuis, des questions se posent sur son arrêt cardio-respiratoire, sur les traitements qu'il a reçus, sur sa mort, des questions posées par ses filles, notamment, qui accusent le médecin traitant en particulier.
Ces maltraits, cette chose de... Il y a eu des chats que je... Maintenant, je pense et je dis, claro, que entre... Creo que era Lu, que no sé con quién hablando, que me puteaban porque yo había pedido que no le expongan a mi papá recién operado con la bata del lugar de la clínica, sí. Que me parecía que no era necesario. Estaban más preocupados por salir a los medios que por hacer bien su trabajo, parado, que era, ¿no?, ser médicos.
Pas encore de date pour le procès. Les 8 professionnels de santé risquent de 8 à 25 ans de prison.
Direction la Chine, à présent, pour parler de certains qui raffoleraient de vidéos clairement racistes.
Oui, alors c'est d'une enquête de la BBC dont je vous parle. Un documentaire qui dévoile un étrange trafic de vidéos, déjà dénoncé, mais cette fois étayé, documenté. Écoutez bien, il s'agit de l'histoire d'un Chinois en Afrique, au Malawi en l'occurrence. Il se fait appeler Soussou. Il tourne des vidéos avec des enfants à qui il promet quelques piécettes, des gamins qui acceptent au lieu d'aller à l'école, ce qui est un premier problème d'ailleurs. Dans un premier temps, vous voyez là des images de ce que la BBC appelle du poverty porn, du porno de pauvreté, pour le plaisir de je ne sais quel spectateur de voir des enfants démunis, mendier, réduits à leur statut de pauvres. Dans la poussière africaine, Soussou gagne de l'argent avec ses vidéos. Écoutez-le enregistré, d'abord en caméra cachée. Les propos déjà sont clairement racistes. Et si Soussou gagne de l'argent, c'est que ses vidéos marchent bien. Elles font rire des Chinois qui se les partagent frénétiquement. Elles sont mises en ligne dans une catégorie spécifique, la catégorie nègre. Dans le village où le documentaire a été tourné, on voit plutôt Soussou, regardez, comme un bienfaiteur.
He's trying to impart a bit of his Chinese culture into them.
I just know that they come teaching China language only.
Dans ces vidéos les plus racistes, il y a celle où Soussou fait répéter des phrases en mandarin à des gamins qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Regardez.
Sometimes it's groups of young muscle men. Other times it's women in fancy dress. Often, it's kids, usually standing around a blackboard, shouting these greetings in Chinese.
Yeah. Des enfants ridiculisés sans qu'ils ne le sachent forcément, des enfants qui sèchent l'école pour gagner un peu d'argent, sont transformés en viande à réseaux sociaux pour des Chinois racistes. Soussou a fini par répondre à quelques questions de la BBC. Écoutez-le.
Oui, enfin, ces explications-là sont plus que vaseuses. Hein.
Oui, la caméra cachée en disait plus.
Mm. Aux États-Unis, les passagers d'un avion se sont fait une belle frayeur.
Oui, aéroport international de Miami. Hier, voici les images du vol 203 de la compagnie Red Air en provenance de Saint-Domingue. Quelques instants seulement après avoir touché le sol, l'avion est sorti de piste. Il a heurté un bâtiment avant ensuite de s'immobiliser dans l'herbe. Les 126 passagers et 11 membres d'équipage vont bien, 3 blessés légers seulement. Vous voyez là des images amateurs de l'intérieur de la cabine après l'accident. Inquiets, bien sûr, qu'ils ne le seraient pas. Les passagers ont été évacués via les toboggans d'urgence avant, bien sûr, de témoigner pour les télés américaines.
L'avion a commencé à bouger très, très fort avant de toucher le sol.
Je n'ai vu les flammes et la fumée que lorsque je suis sorti de l'avion.
C'est comme s'il avait atterri sans roue.
OK. C'est probablement, une panne mécanique sur un train d'atterrissage qui est en cause, ou alors une erreur humaine, un atterrissage trop brutal. Une enquête est ouverte. L'aéroport de Miami a été obligé de fermer 2 de ses 4 pistes.
Une bonne nouvelle, peut-être maintenant, l'histoire en tout cas d'un homme et de son crocodile.
Je me suis dit qu'on allait changer les idées pour finir. Les crocodiles ne lui font pas peur. Il s'appelle Kai Hansen, l'homme, pas le crocodile. Vous voyez là, normalement, les deux à l'écran dans un instant. Kai Hansen est un restaurateur, mais également le remaître d'un crocodile de compagnie qui s'appelle Casey, lui. Alors, tout ce beau monde, il y a aussi un chien dans l'histoire. Tout ce beau monde vit sur une île où Kai Hansen tient un restaurant. Nous sommes en Australie. Un crocodile de compagnie, vous croyez que je me moque de vous, mais non. C'est l'attraction du restaurant. Vous allez voir là comment Kai le nourrit, avec un petit peu de distance, à quelques mètres du restaurant seulement. Vous voyez aussi comment le chien est devenu berger pour Croco. Il y a tout un tas de vidéos de ce genre. Un petit chien qui tient quand même le reptile en respect, mine de rien. Mais ça, c'était juste avant qu'un autre crocodile tente de s'inviter sur leur île. Et c'est ce qui vient de rendre Kai Hansen internationalement célèbre. Kai Hansen a réussi à faire déguerpir cette bête avec une arme peu commune, une poêle. Voilà, vous voyez l'image en boucle sur vos écrans, qui est un gros succès aux États-Unis et qui impressionne, y compris en studio. 2 bons coups de poêle sur le museau. Je dois rester en sécurité, j'ai fait comme j'ai pu, a-t-il déclaré ensuite, après avoir impressionné les clients de son restaurant.
Mais parce que l'autre crocodile ne pouvait pas faire le job.
L'autre crocodile, apparemment, ne chassait pas. J'ai pas tout
il n'a pas bougé,
si
quoi.
Je suis complètement transparent avec vous. J'ai pas enquêté plus que ça.
Il est estimé que c'était déjà suffisant. Vidéo gag.
On ne sait pas ce qui est devenu le chien, du coup.
Non, mais le chien va bien. Mais si vous partez dans ces zones-là, prenez une grosse poêle avec vous. 2 coups sur le museau. J'ai vu, mais je suis prêt. Ça y est.
Est-ce que ce ne serait pas une métaphore politique, tout ça,
les crocodiles. Les...
Voilà comment nous allons faire le consensus.
Après la campagne TFA, vous voulez dire.
Oui, vous avez des casseroles.
Non, des poils.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup.
Fanta Diallo.
Fanta Diallo.
Sweet, sweet.
Je remercie d'abord. Ils sont déchaînés. Est-ce que je peux me permettre de remercier Aurélien Pradier, député du Lot, et peut-être candidat à la présidence des Républicains. Il y avait de l'information quand
même
ce soir.
Merci beaucoup pour votre invitation.
À la table de C'est à vous. Dans un instant, voilà, Alpha Blondie sur la scène de C'est à vous, et puis aussi 3 vieilles canailles, Pierre Richard, Eddie Mitchell, Bernard Lecoq. Vous allez voir, ils sont dans une grande, grande forme dans cette adaptation au cinéma. Des vieux fourneaux, c'est la 2e adaptation au cinéma. La première avait cartonné. J'ai fait trop long, Patrick s'est endormi. À tout de suite pour le dîner.
On l'a fait, on n'entend plus.